De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains donc pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, encore une émission avec des cinémas fermés mais des connexions internet bien ouvertes hein, permettant de trouver à peu près tout ce qu'on veut. Mais on ne va pas faire cette émission sans avoir une pensée et même un petit peu plus pour Michel Piccoli qui nous a quittés ce 12 mai, d'autant plus que ça fait plus de 2 ans déjà qu'il est dans notre générique d'émission.
Quelquefois je sors dans la rue avec mon pistolet dans la poche comme ça. Je marche et je me dis que le premier qui me chercherait, je le crève à bout portant.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Et oui, c'est Michel Piccoli dans Le Prix du Danger. Faute de pouvoir encore faire une émission à trois dans le même studio, les trois membres de l'équipe ont choisi un film pour découvrir ou revoir Michel Piccoli. Mais dans cette émission, nous parlerons aussi des films qui sortent en VOD. La plupart de ces films, nous les avions chroniqués à leur sortie en salle. Il sera question de Lara Jenkins, Nina Wu, Dark Waters et Judy. Mais nous commençons avec le dernier film de Guy Ritchie, The Gentleman.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu.
Alors c'était sûrement une comédie.
On va jouer un petit jeu ensemble, Ray.
J'ai pas du tout envie de jouer.
S'il te plaît.
Non.
Je t'ai demandé de jouer avec moi, Raymond.
D'accord.
Génial.
Mickey Pearson, interprété par Matthew McConaughey, règne sur le trafic de drogue londonien. Lorsqu'il commence à songer à prendre sa retraite, il déclenche une véritable guerre de succession parmi les mafieux et les barons de la drogue locaux, dans laquelle tous les coups seront permis pour prendre la place du roi.
La Marie-Jeanne, c'est mon péché mignon. Votre poison, à vous, c'est et ça a toujours été un destructeur de vie.
Vous êtes fini. J'aimerais vous faire une offre.
Je ne suis pas à vendre.
Alors autant le dire tout de suite, hein, je n'ai jamais vraiment aimé le cinéma de Guy Ritchie. Je n'ai jamais considéré Snatch comme un film culte des années 2000. J'ai trouvé Arnaque, Crime et Botanique brouillon et agaçant et j'ai absolument détesté ce qu'il a fait de Aladdin lorsqu'il l'a adapté en version live pour Disney. Néanmoins, si vous faites partie de ceux nombreux qui trouvent son cinéma délicieusement british et irrévérencieux, nul doute que ce gentleman vous ravira, car c'est un Guy Ritchie au sommet de son art qui nous revient, si tant est que l'on aime son art. Cette comédie mafieuse est portée par des acteurs qui cabotinent allègrement en sortant des répliques telles que « Tu sais, la vie c'est comme des dominos, ce qui compte ce n'est pas le premier domino qui tombe, c'est le dernier ». Et finalement, devant The Gentleman, l'allégorie qui nous vient à l'esprit, ce n'est pas un jeu de domino, mais plutôt des poupées russes, puisque chaque personne que l'on croit voir tirer les ficelles est en fait lui-même manipulé par quelqu'un qui est lui-même manipulé. Le scénario de The Gentleman, vous l'aurez compris, galope à toute allure. Clairement, ne vous absentez pas de la salle pour aller aux toilettes. Vous risqueriez de ne plus rien comprendre au film par la suite. Il y a environ 77 twists à la minute. C'est très habilement écrit. De toute façon, le film va tellement vite que vous n'auriez pas le temps de percevoir les incohérences s'il y en avait.
Je ne peux pas révéler qui sont les héros et les zéros. Mais notre protagoniste est un animal affamé. Ça représente un très gros pactole. Notre antagoniste explose dans le décor comme un putain de feu d'artifice. Et déclenche une guerre indirectement.
Alors, comme dans tous les films de mafia, il ne restera plus grand monde de vivants à la fin. En même temps, on s'en moque un petit peu puisqu'on n'a pas du tout le temps de s'attacher aux personnages, Guy Ritchie étant trop occupé à caser en 2 heures de film tous les acteurs anglais les plus célèbres, Hugh Grant, Charlie Hunnam, Henry Golding, Colin Farrell, même s'il est irlandais, ou encore Eddie Marsan. Porté par ce casting presque exclusivement masculin, The Gentleman est habité par une sorte d'hystérie virile, ça dézingue à tout va. Et bizarrement, eh bien, après quasiment 1h30 passée à trouver, pour ma part, le film assez prétentieux et assez vide, eh bien, la dernière demi-heure s'est avérée être la meilleure, la seule au cours de laquelle, pour moi, la mise en scène crée une vraie tension, jusqu'au moment où le film retourne sa veste dans un méta-final très ironique.
Il s'appelle Féchier, avec PH au lieu d'AF, mais ça se prononce Féchier.
Pitié!
Allez, Féchier, ne fais pas chier.
Pitié!
Couchez.
Vous avez tué un homme?
Non.
Non, c'est la gravité qui l'a tué. Filez-nous vos portables. Sac petit!
The Gentleman est normalement disponible sur toutes les plateformes VOD. Passons maintenant à un film plus confidentiel, il est allemand, c'est Lara Jenkins de Jan Ole Gerster.
Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis,
Cinérama.
Parfaitement au point et incapable de nous tromper.
Sind Sie Lara Jenkins?
Ja. Comme Nina Wu, Lara Jenkins est aussi un portrait de femme dont le parcours s'avère diamétralement opposé. Le jour de ses 60 ans, l'idée traverse l'esprit de l'héroïne de se défenestrer. Mais le hasard de la vie peut changer un plan funeste. Deux policiers l'interrompent dans sa décision, l'invitant à être témoin d'une perquisition liée à un problème de voisinage. Alors cet empêchement va déclencher une prise de conscience pour cette femme glaciale et impitoyable. Elle n'avait aucune raison de se suicider en apparence. Son anniversaire coïncide avec le concert de piano donné par son fils Victor. Sans doute le plus important de sa carrière, celui où il va laisser enfin libre cours à sa créativité en présentant une composition personnelle. Le conflit mère-fils n'est pas au cœur de leur relation, Lara l'ayant toujours soutenue depuis le début, au point de penser que le fruit du succès lui est redevable. Elle fut son professeur de piano, mais Victor est injoignable depuis des semaines, laissant planer l'hypothèse que sa mère ne serait pas la bienvenue lors de la représentation. Tel un fantôme sauvé du plongeon in extremis, elle va tenter en une journée de se racheter, de faire le bilan d'une vie passée à mépriser les autres. Première idée incongrue, symptomatique de son incapacité naturelle à nouer des relations sociales, elle achète tous les billets restants du concert, les distribuant à son entourage, surpris par un tel acte à la fois absurde et inattendu. Très rapidement, cette silhouette spectrale, presque dénuée d'émotion, nous est dévoilée à travers les autres d'une façon très subtile par leur réalisateur Jan Ole Gerster. Lara Jenkins n'est pas seulement une pauvre mère névrosée et dépressive gagnée par la mélancolie et le sentiment de gâchis. Elle est aussi une sacrée peau de vache qui en a martyrisé plus d'un lorsqu'elle dirigeait un service administratif. Au gré des rencontres, la personnalité de la sexagénaire se dévoile et un paradoxe surgit. Plus les raisons de la haïr deviennent évidentes, plus elle envahit l'espace, suscitant une forme d'empathie. L'indifférence polie envers une figure stéréotypée d'un certain cinéma d'Europe de l'Est agace durant les premières minutes, mais la crainte d'assister, on va dire, à un pensum conceptuel fustigeant le système libéral validé par des individus fautifs, incapables de communiquer ou d'éprouver le moindre sentiment, n'a pourtant pas lieu. La mise en scène distanciée, voire austère, privilégiant les plans fixes cadrés à la perfection, forme idéale pour les décors aseptisés aux couleurs ternes, accentue cette impression, alors vite déjouée par une âme redoutable, présente du début à la fin, un humour décapant et décalé. Alors l'humanité grandissante que développe le scénario envers son personnage tient à cette dimension sarcastique d'une méchanceté parfois jouissive traversée par un mauvais esprit salvateur. Alors notamment lorsque Lara s'incruste dans une école de piano et tyrannise un élève en se faisant passer pour une prof sadique. Alors Jan Ole Gerster observe les agissements de son héroïne en un temps ramassé. Alors comment faire le bilan d'une vie en une seule journée ? Mission périlleuse qu'elle apprendra à ses dépens, fragilisant sa perception du monde. Derrière son masque rigide se drape une vulnérabilité qui explose en fin de parcours lorsque son fils décide à sa manière de couper le cordon, de prendre son envol et de mettre sa mère face à une cruelle vérité. Désarmée et seule, Lara finit vaincue, mais devient autre chose qu'une enveloppe vide, qu'un monstre d'inhumanité. Le réalisateur lui laisse une chance de renaître, de s'ouvrir aux autres. Alors, ces petites odyssées à réparatrice s'éloignent du petit théâtre formaliste d'un Michael Haneke grâce à la réussite d'un portrait de femme ambivalent, aussi ironique que lucide, laissant transpercer quelques bribes d'émotion. Alors, ce n'est pas lorsque le film rejoue la partition de la pianiste, sur les rapports mère-fils qu'il s'avère le plus convaincant, mais dans son observation minutieuse des personnages secondaires, galerie iconoclaste et pertinente du petit peuple allemand rabaissé par une figure autoritaire qui pourrait symboliser le pouvoir. Le film trouve sa raison d'être, parvient à émouvoir quand la statue de marbre commence à se fissurer, fissure d'ailleurs trouvant écho dans une mise en scène qui s'assouplit vers la fin, plus ample, acceptant enfin que la caméra enveloppe son personnage, son héroïne. Lara Jenkins alors ne serait rien sans la présence incroyable de son actrice principale, grande dame du théâtre ayant joué Ingmar Bergman sur les planches. Elle est en effet une sublime réplique aux plus grandes comédiennes ayant traversé l'univers du Suédois. Ce n'est pas la moindre qualité de ce beau film âpre et intelligent qui se laisse difficilement apprivoiser.
Lara Jenkins est disponible en VOD. C'est pas forcément le film le plus agréable dans une période post-confinement, mais comme une des questions politiques du moment, c'est de savoir comment régir le nouveau monde, avec Dark Waters de Todd Haynes, on en a une idée, ne rien laisser aux multinationales, surtout celles de la pétrochimie.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Votre grand-mère m'a dit que son petit-fils était avocat à Cincinnati, spécialisé dans l'environnement.
Je crois que vous n'avez pas compris. Je suis avocat d'affaires, donc je défends les entreprises de chimie.
Bah, maintenant, vous allez me défendre.
Ce qui est révélé dans Dark Waters de Todd Haynes est ni plus ni moins qu'une affaire d'empoisonnement à grande échelle orchestrée par une puissante société qui savait très bien ce qu'elle faisait quand elle produisait le téflon dans la ville de Parkersburg en Virginie occidentale. La société DuPont savait combien les rejets dans l'eau étaient toxiques et voués à finir dans le corps des habitants quand ce n'était pas à plus forte dose dans l'organisme des employés de cette grande entreprise qui faisait vivre toute une région. Si Dark Waters est un film de dénonciation et montre le combat d'un avocat contre une firme qui ne veut rien avouer, le film de Todd Haynes ne prend pas l'allure d'un Erin Brockovich avec une héroïne époustouflante. Todd Haynes nous a plutôt habitués à des mélodrames dans lesquels les personnages ont du mal à suivre leur voie, écrasés qu'ils sont par le milieu ou leur éducation. Alors le film commence étonnamment comme un film d'horreur, hein, avec un groupe de jeunes qui vient faire un bain de minuit dans une eau dans laquelle des hommes ont semble-t-il l'habitude de verser un produit. Cette séquence est lointaine dans les années 90 et amorce une histoire judiciaire qui va s'achever proche de nous. Curieusement, Robert Bilotte, interprété par Mark Ruffalo, qu'on a plaisir à voir autrement que grimé en Hulk, est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Et c'est lui qu'infirmier vient voir en ville à Cincinnati pour qu'il dévoile la vérité sur les agissements de DuPont. Alors ce fermier a une flopée de cassettes VHS sur lesquelles ses vaches sont agressives, malades, sinon mortes, et il en est sûr, c'est la chimie de DuPont qui est la cause du désastre. Si l'avocat accepte de prendre au sérieux cette affaire, c'est que cette ville polluée par une multinationale, c'est celle de sa grand-mère chez qui il passait ses vacances.
Vous avez perdu 190 vaches.
Vous allez pas me dire que c'est normal, vous aussi.
C'est juste une petite affaire pour un ami de la famille. Et au moins, on aura aidé quelqu'un.
Le fermier ou toi ?
C'est les produits chimiques qui font ça.
Je comprends pas tout dans leurs archives. On nous cache des choses. Ce produit chimique, ça ferait quoi si on en buvait ?
En boire ? C'est comme de demander, et si j'avale un pneu, c'est grave ?
Imaginons que ce qui fait mourir toutes ces vaches, c'est quelque chose qui est dans l'eau du robinet.
Chez DuPont, promettre une vie meilleure grâce à la chimie, ça fait partie de notre ADN. Vous tenez vraiment à foutre votre carrière en l'air ? Tout ça pour un bouseux ?
Le film s'efforce patiemment de nous immerger dans le combat et les souffrances de cet avocat qui sait qu'il lutte contre un géant. Alors pour cela, il va risquer sa carrière au sein d'un cabinet d'avocats dans lequel il se retrouve de plus en plus isolé, va aussi faire vaciller son couple et sa famille. Grâce à une mise en scène claire, exploitant parfaitement les lieux, des grandes tours des villes aux fermes boueuses de l'Amérique profonde, les intérieurs comme les maisons, les salles de réception ou les bureaux des avocats, on comprend nettement tous les ressorts d'une intrigue épuisante car elle s'étire dans le temps, plus de 20 ans, et semble toujours se dérouler en hiver dans une lumière retenue. Elle assombrit le personnage principal qui semble s'effondrer malgré les astuces et l'idéalisme dont il fait preuve contre une entreprise qui finit par l'assaillir de documents avant de le contraindre à jouer le jeu d'une procédure qui pourrait durer 3 décennies.
DuPont a délibérément empoisonné plus de 70 000 citoyens pendant 40 ans. Vous saviez, pourtant vous n'avez rien fait.
Tu veux prendre tout ce que tu sais ? Et utiliser ça contre le géant américain de l'industrie chimique. Donc t'es un informateur, c'est pas vrai ? C'est pas vrai ? C'est pas vrai ?
Si. Le système est truqué. Ils veulent nous faire croire qu'ils nous protègent.
On ressort de ce film qui laisse poindre l'émotion moins alerte qu'avant d'y être entré, mais Dark Waters reste une œuvre aboutie, aussi sombre qu'éclairante, plus proche du documentaire sensible que du divertissement. Le film est tiré de faits réels, dont on se serait douté, ce qui rend l'ensemble encore plus glaçant à l'ère du glyphosate, pour ne prendre que cet exemple. Dark Waters est évidemment en VOD.
This is Cinérama.
71 ans de carrière, plus de 200 films à son actif, Michel Piccoli est décédé à l'âge de 94 ans. On se souvient de lui dans de nombreux films, surtout ceux des années 60 à 80, Godard évidemment, De Oliveira, Buñuel, Sautet, Ferreri, dans La Grande Bouffe, où il meurt d'aérophagie, pas banal. Alors il a eu beaucoup de rôles, chaque membre de l'équipe a choisi un film dans lequel on retrouve Michel Piccoli, et c'est avec toi Manu que l'on commence.
Que retenir de Michel Piccoli? Alors, dire qu'il s'agit d'un des plus grands acteurs français qui nous quitte n'est pas très original, même si c'est une évidence. Alors, je retiens surtout cette capacité assez exceptionnelle de moduler son jeu à l'infini. Alors, passant de la sobriété la plus exemplaire, hein, comme dans des films comme Max et les Ferrailleurs ou Le Mépris, à des numéros d'acteurs borderline, toujours limite, explosifs, comme dans Thème Rock. Alors, il fait partie de cette race de comédiens, ben, comme Jean-Louis Trintignant, qui peut faire corps avec tous les types de rôles, les plus introvertis comme les plus extravertis, les taiseux comme les bavards, ben, les bons comme les méchants. Enfin, avec plus de 200 films à son actif, hein, il a traversé les décennies, ben, avec un talent égal, hein, au service de quelques-uns quand même des plus grands, parce qu'on pourrait quand même citer Jean-Luc Godard, Ferreri, Manuel de Oliveira, Nino Moretti, mais aussi Louis Buñuel, Hitchcock, et même Mario Bava, le temps d'un danger diabolique. Enfin, je retiens aussi un homme de gauche, de conviction, voilà.
Alors, il faut quand même choisir un film.
Oula, en réfléchissant, Vincent, il est difficile de retenir un film. Hein. Même deux, même trois, même quatre. Hein. Alors, toutefois, j'ai toujours jubilé de voir Piccoli incarner des ordures, des sales types. Pour moi, il excelle dans ce type de rôle. Hein. Je pense évidemment à celui du Prix du Danger d'Yves Boisset, où il interprète un animateur cynique d'un jeu télévisé mortel, hein, s'inspirant ouvertement de Guy Lux, le personnage. Hein. Il est absolument génial dans un numéro d'équilibriste absolu, de cabotinage virtuose. Et puis, c'est vraiment aussi un souvenir d'enfance quand j'ai vu Piccoli dans ce rôle-là qui m'avait réellement impressionné.
Voici donc commencer notre quatrième émission, Le Prix du Danger.
Et maintenant, chers amis, chers téléspectateurs, regardez bien. Vous allez découvrir ceux qui, dans quelques instants, vont se lancer à la poursuite de François Jacquemart. Ils vont descendre du ciel, ou plutôt de l'enfer. 2500, chers amis, chers téléspectateurs, ils étaient 2500 personnes à vouloir poser leur candidature pour être les tueurs du Prix du Danger. Et vous n'en verrez aujourd'hui que 5. C'est la loi draconienne de cette émission, 5 candidats. Triés sur le volet, des personnes comme vous et moi, qui n'ont jamais tué personne, mais qui en meurent d'envie, si toutefois vous me pardonnez ce jeu de mots. Je vous les présente.
Au tour de Marine de choisir un film avec Michel Piccoli.
Ce que je retiendrai, moi, de Michel Piccoli, c'est Les choses de la vie de Claude Sauté que j'ai découvert à l'occasion de sa mort, donc c'est tout récent. J'ai vraiment découvert avec surprise un film très inventif dans lequel les choses de la vie, justement, c'est-à-dire l'amour, la mort, la rupture amoureuse, sont sublimées par la mise en scène. Et c'est un film, surtout, qui m'a frappée par son humanité, que l'on doit en grande partie, je pense, à l'interprétation de Michel Piccoli. Il incarne le mari de Romy Schneider avec qui il forme un couple magnifique tiraillé entre sa nouvelle femme et son ex-épouse. C'est un personnage pourtant difficilement aimable et il parvient à le rendre attachant, à lui donner vraiment une vraie profondeur.
Ça ne me paraît pas possible.
Vous voulez rire? C'est décidé.
Décidé par qui?
Par qui? Par la société, par tout le monde.
Et pas par nous. Pas par moi. Moi, je vous dis que les gens qui agarrent par la fenêtre verront des jardins et non pas les parkings.
Je suis désolé. Mais si vous voulez relire votre contrat, vous verrez qu'il existe...
Mais mon contrat, je peux vous le balancer vers la figure. Moi, tant que je serai là, si je vois une cage à la main sur la pelouse, je la fous par terre. C'est vous qui habitez ici? Non. Bon. Moi, je vais aller chez vous et je vais faire passer le tout à l'égout sur vos fenêtres. Ferme votre gueule. Si vous faites passer la publicité d'abord et les plans après, ça vous regarde. Bon,
fou. Monsieur Bérard, vous direz tout cela à monsieur Wilkinson?
Wilkinson, ne connaît pas, je ne sais pas qui c'est.
Quant à moi, j'ai décidé de passer un extrait du film de Léos Carax, Mauvais sang, déjà parce que je suis un inconditionnel de ce film. Michel Piccoli n'a pas le premier rôle, hein, mais il a quand même donné de son temps et de sa notoriété au jeune Léos Carax, qui d'ailleurs le refera jouer pour Holly Motors, son dernier film. Les grands acteurs ont quand même cette capacité à flairer les grands réalisateurs en devenir. Dans Mauvais sang, Piccoli incarne Marc, un gangster vieillissant, travaillé par la peur, qui cherche à mettre la main sur un vaccin contre une nouvelle maladie appelée STBO, qui affecte les couples qui font l'amour sans s'aimer. C'est évidemment, en 1986, c'est bien une grandiose métaphore du sida, signée Léos Carax.
Pour notre affaire, c'est urgent. Tout doit être réglé d'ici 2 semaines. Jean disait que vous étiez devenu aussi rapide que lui, avec les mains.
Plus rapide.
Vous avez entendu parler du STBO?
Non.
Tu lis pas les journaux?
Jamais.
Le SDBO, cette nouvelle maladie. Le syndrome de... quelque chose, je sais plus. La maladie qui tue par milliers.
Et c'est qu'un début.
Qui tue par milliers les amants qui font l'amour sans aucun sentiment.
Et plus on est jeune, plus le risque est grand.
En fait, il suffit qu'un des deux partenaires ne fasse pas l'amour par amour. Pour que les deux soient atteints. C'est ça, Hans?
Oui. Le STVO, c'est un rétrovirus.
Oui, rétro. Virus. Il se transmet par certaines caresses. On dit que les souffrances sont terribles. Atroces.
Trouble de la vue. Douleur aux articulations. Vomissement. Contraction des muscles.
Le premier laboratoire. Le seul à avoir isolé le virus. C'est la Darley Wilkinson. La Darley Wilkinson. La mise au point d'un vaccin leur ouvrira un marché considérable.
S'ils y arrivent.
Une histoire d'immunité, de défense.
Oui, c'est ça.
Ils ont installé leur laboratoire au 56e étage d'une tour moderne. On va passer devant. Notre client est un laboratoire étranger. Il paie pour avoir une culture de ce virus.
Vu la filmographie de Michel Piccoli, on pourrait y passer tout l'été. Retour sur l'actualité des sorties VOD avec Judy, biopic sur Judy Garland.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Quelqu'un a vu Judy? Il y a des centaines de gens qui sont venus vous entendre chanter.
Ma bouche est toute sèche. Je
n'en arriverai jamais. Écoutez-moi.
Je vous ai dit.
Non, ça va bien se passer. C'est à vous.
Nous sommes en 1968 à Londres et la célèbre Judy Garland a cessé sa carrière d'actrice, rompu le contrat qui l'a lié avec les studios MGM depuis son enfance et entamé une nouvelle carrière de chanteuse. Mais Judy a presque une cinquantaine d'années, chaque concert est une épreuve pour son corps usé par l'alcool, les drogues et la dépression.
On va tout de même pas laisser la plus grande star du monde sans rien à boire.
Frank Sinatra est ici?
Frank est génial, mais il n'est pas Judy Garland. Je parie que ça le ronge.
Judy est un biopic partiel consacré à un moment charnière de la vie de la comédienne. Et en choisissant de raconter eh bien, cette tentative de reconversion de Judy Garland dans la chanson, le réalisateur Rupert Gould aborde finalement bien d'autres sujets. Il est question entre autres d'homosexualité, qui était à l'époque non seulement tabou mais illégal, ce qui a causé pas mal de mariages malheureux. Judy Garland a quand même pour sa part eu 2 maris sur 4 qui se sont avérés aimer les hommes et elle est paradoxalement devenue à cette époque une véritable icône gay. Il est également question du système hollywoodien qui est montré de façon assez intelligente, tout en flashback et en sous-entendu. On comprend notamment le chantage affectif, la pression que les producteurs mettaient sur l'actrice depuis son plus jeune âge, puisqu'elle a commencé à se produire sur scène à 2 ans pour devenir une star mondiale à 13 ans et finalement décédée à 47 ans, très peu de temps après son passage sur la scène londonienne. Alors malgré tout cela, ne vous attendez pas à un drame façon La Môme, hein, Judy est le récit d'une déchéance joyeuse. Rien n'est jamais sordide ou mélodramatique. La raison de ce ton qui demeure de part en part du film relativement joyeux, eh bien c'est la présence de Renée Zellweger, qui insuffle quelque chose de très doux et de très lumineux au personnage de Judy Garland et qui s'est quand même sacrément investie, hein, puisqu'elle chante elle-même toutes les chansons du film. Un investissement récompensé par un Oscar cette année, le second de la carrière de la comédienne.
Clang, clang, clang went the trolley. Ding, ding, ding went the bell. Zing, zing, zing went my heartstrings. From the moment I saw him, I fell. Chug, chug, chug went the motor. Bump, bump, bump went the brake. Thump, thump, thump went my heartstrings. When he smiled, you could feel a car shake. He tipped his hat and took a seat. He said he hoped he hadn't stepped upon my feet. He asked my name, I held my breath. I couldn't speak because he scared me half to death. Buzz, buzz, buzz went the buzzer. Plop, plop, plop went the wheels. Stop, stop went my heartstrings. As he started to leave, I took hold of his sleeve with my
On termine cette émission avec le film le plus osé, Nina Wu de Midi Z. C'est un vrai nom de réalisateur, hein. Il est taïwanais, une belle réussite surfant sur la vague MeToo qui n'a pas trouvé son public dans les salles.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
On va regarder ça.
La tabatine.
Alors, ce n'est pas le film le plus gai à visionner en VOD seul chez soi. Pourtant, Ninaou est une œuvre qui se mérite, qui demande un effort, et ce dès les premiers plans glaçants. Une jeune femme, le visage fermé, se déplace au milieu de la foule dans les rues de Taipei. En quelques plans très incarnés, le film capte l'ultra-moderne solitude de cette femme. Cette ouverture, du propre aveu de la scénariste et interprète principale, Wu Kexi, serait l'épilogue, même si elle nuance son propos lorsqu'elle énonce que cette scène pourrait tout autant s'inscrire dans le présent que dans le futur, via le dossier de presse. Une nuance largement validée par un cinéaste qui s'est emparé de cette histoire dans l'air du temps, inspiré de l'affaire Weinstein, en brouillant les pistes, en tordant la narration jusqu'à saturation, embarquant le spectateur dans l'espace mental de l'héroïne. Cette jeune femme, c'est Ninaou. Elle s'est exilée en métropole, loin de sa famille et ses origines rurales, dans l'espoir de devenir actrice. Elle n'a pour le moment tourné qu'une poignée de publicités et quelques courts-métrages. Elle complète aussi ses revenus avec un programme érotique en live stream. Son agent lui offre une opportunité de jouer dans un film d'espionnage. Après audition, volontairement éludée au début du film, elle est engagée. Alors seul bémol, elle doit tourner des scènes de sexe explicites. Le visage de porcelaine de l'actrice va peu à peu s'effriter tout au long du tournage anxiogène placé sous la domination masculine. Alors après une première partie rigoureuse, étayée de l'entraveling avant et arrière et d'une composition très géométrique des cadrages, le film nous plonge dans un univers onirique où se télescope le passé, le présent et le futur, rêve et réalité. Alors cette césure, marquée par un événement important, invite les spectateurs à être attentifs aux images, à décrypter les signes et les codes évoquant le fameux Silencio de Mulholland Drive. À l'austérité formelle de la première partie, créant un malaise croissant, s'oppose une mise en scène frénétique. Les couleurs sont plus agressives, avec une prédilection pour le rouge, les décadrages et les ellipses narratives déstabilisent la perception du regard, nous embarquant dans un cauchemar intérieur, espace mental d'une actrice qui laisse des traumatismes et fêlures ressurgir. Alors prise dans une spirale de psychose, où l'on ne sait plus très bien d'ailleurs où se trouve la part de réel, la mauvaise conscience revient, celle d'avoir quitté ses parents, de ne pas assumer ouvertement son homosexualité dans un pays ultra conservateur, et d'avoir accepté d'endosser un rôle sulfureux. Cette construction en miroir entre la première partie rationnelle et la seconde baroque se révèle une façon intelligente de livrer une confession à l'écran et d'épargner le spectateur grâce à des choix esthétiques et narratifs très forts, évitant d'ailleurs le naturalisme. On refait le chemin avec Nina sans pathos et voyeurisme, mettant une distance morale. Manipulée par son agent et bousculée par un réalisateur despotique, Ninaou va se donner corps et âme pour défendre son personnage fictif au point de perdre la raison, jusqu'à cette fameuse séquence de sexe intelligemment suggérée à l'écran par une simulation provoquant un vrai malaise. Et paradoxalement, en laissant une part d'imagination, elle n'en est que plus dérangeante, imposant une vision érotique purement liée au fantasme masculin. Alors Ninaou dépasse, on va dire, le plaidoyer post-MeToo pour dépeindre un système patriarcal et vertical basé sur la loi du plus fort et la compétitivité. Dans cette représentation effrayante de l'envers du décor d'une industrie peu reluisante, les femmes sont les premières victimes, représentation symbolisée par une double séquence terrifiante avec le producteur du film qui invite Nina dans sa suite, la chambre 1408, alors référence explicite à un film d'horreur inspiré d'une nouvelle de Stephen King et produit par Harvey Weinstein. Alors Midi Z, le réalisateur, s'affirme comme un auteur exigeant, alliant la forme et le fond sans jamais que l'une prenne le dessus sur l'autre. C'est dans cet équilibre fragile que tient toute la force de Ninaou, admirablement mise en scène, une œuvre déstabilisante à la colère rentrée et pudique, malheureusement passée inaperçue à sa sortie en salle. Une occasion donc, grâce à la VOD, de réparer cette petite injustice.
Ninaou de Midi Z est disponible en VOD sur de nombreuses plateformes.
Vous avez fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
On espère que la semaine prochaine, on n'aura pas dommage à faire, car depuis cette crise sanitaire, on en est au troisième. Après l'acteur Philippe Naon et le réalisateur Stuart Gordon, cette fois-ci, c'était au tour de Michel Piccoli. Portez-vous bien.
C'est ça l'évolution urbaine, mon petit garçon. Les autres, ils n'ont qu'à s'installer plus loin. C'est ça, s'adapter, t'as compris?
Non, mais je vais pas entendre des conneries toute ma vie. Recevoir des leçons imbéciles jusqu'à la fin des temps.
Écoutez, un écrivain qui n'écrit rien, un boxeur qui veut pas boxer, des bonnes femmes qui couchent avec n'importe quoi. Merde! Et quand on s'est parti, celui-là qui va rester avec sa danseuse, quel genre mécanique, qu'est-ce que j'en ai à foutre?
Écoute, François, écoute.
Ta gueule, toi! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde! Je vous emmerde tous, un coup de dimanche, petit chico à la con! Merde!
This is Cinerama.